Vous écoutez France Culture.
Merci à Sarah Petitbon qui a signé le journal et sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître qui était Jacques de Rogy qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Mathias Mégy, Vincent Abouchard et Dofar Guérid sont les pilotes de notre petite entreprise ce matin. Et comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus sur franceculture.fr. En l'espace de quelques jours lors de la semaine écoulée, les djihadistes musulmans ont fait la une des journaux à plusieurs reprises, version heureuse avec la libération des quatre journalistes détenus depuis 10 mois en Syrie par le groupe État islamique en Irak et au Levant. Version dramatique avec l'annonce par le groupe djihadiste malien Moudjahou de la mort d'un autre otage français, Gilberto Rodriguez Leal. Version politique avec la présentation d'un plan de lutte gouvernementale contre le recrutement de jeunes musulmans français pour aller faire le djihad en Syrie. Question ce matin dans le secret des sources, comment informer sur ces groupes et ces filières djihadistes sans se faire manipuler? Nous recevons Karen Lajon, grand reporter au Journal du Dimanche, Jacques Folleroux, spécialiste des questions de terrorisme au Monde, et Omar Waman, grand reporter à France Culture. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également le sociologue des médias Jean-Marie Charon et Frédéric Saïs du service multimédia de France Culture. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
C'est le 128e numéro du Secret des Sources.
Bonsoir, bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir, le plan du gouvernement contre les filières djihadistes syriennes. Plus de 300 Français auraient fait le voyage, des jeunes fanatisés. Le ministre de l'Intérieur annonce un plan d'ampleur. Alors, quelles mesures précisément? Bernard Cazeneuve nous répondra dans un instant. Bonsoir.
Bonsoir.
Le débat autour du travail le dimanche.
Ces djihadistes étrangers, il serait près de 10 000 en Syrie, dont 2 000 Européens et 300 à 700 Français selon les estimations. Là, notre confrère de France 2 en ouverture du journal mardi soir parlait de 300. Ils sont le casse-tête des services de renseignement, mais aussi une forme de casse-tête pour les journalistes. Comment, en effet, informer correctement sur ce sujet sensible où l'on peut se faire manipuler de tous les côtés? Comment prendre la mesure exacte du phénomène? Alors, la première solution pour le journaliste, par définition, c'est d'abord de chercher la source d'information la plus directe, c'est-à-dire les jeunes djihadistes eux-mêmes. Karen Lajon, Omar Waman, Jacques Folleroux, à des degrés et sous des formes diverses, vous avez tous les trois été en contact avec certains de ces djihadistes. Est-ce que c'est compliqué d'entrer en contact avec eux? Comment on entre en contact avec eux? Jacques Folleroux?
Si vous voulez, la vision, comment dire, par le biais des individus, elle est à la fois informative sur les motivations d'un individu, mais après c'est compliqué d'essayer de tirer des généralités et d'en faire des, pour après redonner une photographie globale du phénomène.
Omar Waman ?
Moi, sur cette question, il n'y a pas si longtemps que cela, on pouvait encore aller dans le nord de la Syrie, zone rebelle, sans visa, évidemment. C'est là que moi j'ai constaté l'omniprésence de ces groupes, de ces étrangers venus surtout des pays riverains et évidemment de ces Européens. Donc la rencontre, elle est souvent fortuite au détour d'un barrage, des jeunes cagoulés, djihadistes, étrangers. Et tout de suite, la question, lorsqu'ils apprennent que vous êtes journaliste, à l'époque, il n'y avait pas ces questions d'enlèvement, c'était « Ok, on veut bien te parler, mais... c'est anonyme, on ne donnera pas nos noms, on ne donnera pas nos origines. » Et c'est tout de suite la volonté de parler de leur présence, évidemment, de faire l'apologie du djihad, de leur guerre sainte.
Mais donc ça veut dire que certains de ces jeunes occidentalisés, on va dire, ils cherchent le contact avec les journalistes d'une certaine façon? Karen Lajon?
Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai fait autrement. À partir du moment où le journal n'autorisait pas le fait d'aller en Syrie, je me suis tout bêtement penchée sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont quand même très avides de l'utilisation des réseaux sociaux, et notamment Twitter. Et fin 2012, début 2013, j'ai commencé à tweeter avec un type qui était assez haut placé dans la hiérarchie des Chebab en Somalie, qui est mort depuis d'ailleurs, qui a donné une première interview. Donc visiblement, il voulait communiquer, ce pauvre pauvre garçon. Et je l'ai contacté tout bêtement comme ça. Et la correspondance, elle a duré à peu près 8 mois, jusqu'au moment, y compris les attentats de Boston, puisque je l'ai fait réagir sur les attentats de Boston. À l'époque, j'y étais. Et de là est parti, en fait, j'ai réalisé qu'ils étaient à vide de communication réseaux sociaux. Et il faut tout simplement regarder tous les tweets, s'abonner à tous les tweets possibles et inimaginables. Après, la vérification, elle est très compliquée. Ça, j'en conviens. Vous ne savez pas si vous tombez sur du menu fretin ou si vous tombez sur des gros poissons, si je puis dire.
On va s'arrêter sur les réseaux sociaux spécifiquement dans un instant avec Frédéric Saïs. Est-ce que le fait d'être une femme peut aider à entrer en contact avec des femmes? Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de femmes. Alors, c'est pareil, on parle de 30 à 100 femmes françaises qui seraient là-bas, mais on n'a pas de détails. Donc, est-ce que ça aide d'être une femme dans ces cas-là?
J'ai eu du succès auprès des hommes, entre guillemets, parce que j'ai eu des retours de tweets donc, qui étaient écrits par des hommes. Mais par des femmes, j'ai pas eu cette chance-là, si je puis dire.
Et est-ce que ces djihadistes demandent aux journalistes s'il est musulman? Est-ce que c'est une question qu'on vous pose?
C'est-à-dire que ce que dit Karen sur Twitter se vérifie également sur Facebook. Ils sont très, très actifs. Il y a une forme de djihad également sur Facebook qui permet comme ça d'aller recruter ceux qui sont toujours dans leur quartier, dans leur chambre et qui aimeraient venir. Et d'ailleurs, ce réseau-là, cette entraide, c'est comme ça qu'ils appellent ça, cette entraide au lieu de recrutement. Et la question, elle m'a été posée à plusieurs reprises, tu t'appelles Omar, tu es donc musulman. Donc là, j'ai essuyé un certain nombre de refus de certains jeunes qui disaient, mais tu me poses des questions, tu veux savoir ce que je fais alors que tu devrais être avec nous pour combattre le régime de Bachar el-Assad, les mécréants. Plus globalement, puisqu'on sait qu'il y a une guerre entre les rebelles dits modérés et les plus radicaux. Mais cette question revient souvent. Mais il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, on a eu un certain nombre d'interviews sur les différentes antennes privées, publiques, télé, puisqu'ils se sont trouvés, ces jeunes francophones, belges et français, à Azaz, petite ville syrienne, au nord de la Syrie, à quelques kilomètres de la frontière turque. Et c'est en étant à Azaz qu'ils pouvaient parvenir à attraper le réseau turc. Et donc, ils avaient une clé 3G. C'est pour ça qu'on a eu un certain nombre d'interviews. Ils étaient effectivement très avides de parler de leur quotidien et surtout de faire passer un message. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être manipulé.
Est-ce que les Jacques Follereau, est-ce que les procès, il y a eu un certain nombre de procès avec ces jeunes djihadistes dans le box là, à l'automne et au début de cette année, est-ce que ça permet de non seulement de les approcher, mais d'essayer de les comprendre?
Ce qui m'a frappé justement par le biais judiciaire, c'est de voir que, en fonction des zones, vous avez des profils différents. C'est-à-dire que j'avais suivi un procès qui concernait la zone afghano-pakistanaise, enfin les zones tribales pakistanaises, avec justement un procès concernant un mouvement, indirectement le mouvement le MIO, le mouvement islamique ouzbek, qui avait pour fonction dans cette zone tribale pakistanaise justement de gérer les étrangers et notamment les Français et les francophones qui venaient dans cette région-là. Et là, on avait affaire à des profils, en l'occurrence, je pense à une personne, où on était sur du relativement structuré. C'est-à-dire avec un message religieux relativement structuré, le sens d'appartenir à une organisation qui ne se limitait pas à la France, mais à une organisation internationale. En revanche, un peu une procédure judiciaire concernant le même type de démarche, un djihadisme donc vers la zone sahélienne, en particulier vers le Mali, où là, on a des profils, vraiment des gens très, très isolés, avec peu de formation religieuse, c'est des primo-croyants, avec un petit parcours de délinquant, et finalement, pas du tout encadré, à part un ou deux contacts, mais c'est vraiment beaucoup d'improvisation dans ce cas-là. Donc, on voit bien qu'en fonction des zones, et la Syrie est un cas encore à part, on a des profils différents en fonction des zones visées par les personnes.
Omar Waman, vous évoquiez ces témoignages que vous avez recueillis grâce à une prise de contact par Facebook et que nous avions diffusé dans les matins de Marc Guinchet sur France
Skype,
Culture
oui.
Il y a 2 mois. Alors, parmi les nombreux témoignages, il y avait celui-ci.
On sait tous que le djihad, il est fardain, il est obligatoire sur chaque personne. La Syrie, ça a été un djihad qui était facile à rejoindre. Ça veut dire que les routes, elles étaient ouvertes. Il y a un an et demi, beaucoup plus que maintenant, les routes, elles étaient ouvertes. On arrivait par dizaines, vingtaines, trentaines chaque jour. C'était étonnant, le nombre d'arrivées. Après, quand je suis arrivé en Syrie, il n'y avait pas spécialement beaucoup de Français. Et donc voilà, ses frères qui nous connaissaient et qui savaient qu'on avait rejoint le djihad, on leur a facilité pour venir. Ils ont dit à d'autres, si tu veux, tu peux contacter un tel, il va te faciliter pour venir. Et voilà, ce que vous appelez réseau, bah, c'est de l'entraide.
En fait, voilà. Pour vous, c'est de l'entraide.
Il n'y a pas de recrutement de notre part. C'est qu'il y a des frères, wallah, et j'aimerais les aider. et j'ai pas le temps de les aider tellement il y a des frères qui me demandent de les aider. Il y a un vivier de frères, c'est-à-dire que des frères, ils sont en France par centaines.
Ce genre de témoignage, Omar Waman, on le recueille, donc vous prenez contact par Facebook, c'est ça? Et puis après, vous avez une liaison Skype avec la personne qui est en Syrie. Lui, il se fait appeler Abou Daoud et il dit qu'il est en Syrie depuis un an et demi. En
gros, voilà, ça c'est difficilement vérifiable. Ce qui est certain, c'est qu'il était en Syrie à ce moment-là. Parce que dans l'approche, il y a des questions que j'ai pu leur poser, à savoir à quoi ça ressemble la Syrie. J'y étais, donc je peux vérifier si c'est vrai ou pas. Donc une fois que j'ai la certitude qu'ils sont bien en Syrie, là on rentre dans le vif du sujet et on parle de leur arrivée, de leur rôle. Et ce qui leur tenait vraiment à cœur, c'est de parler de l'islam. En fait, leur idée de l'islam, cet islam qu'ils défendent est un islam extrêmement radical. Pour eux, il n'y a pas d'autre solution que de créer un État islamique. Il n'existe pas dans ce bas monde d'État islamique. Quand on leur parle de l'Arabie Saoudite, pour eux, ce n'est pas l'État islamique dont ils rêvent. Et donc, on est, si vous voulez, avec des témoignages de jeunes qui veulent se servir des journalistes que nous sommes pour faire passer un message, pour tenter de faire venir ceux, en tout cas d'allécher ceux qui seraient de l'autre côté du poste et qui se diraient, tiens, c'est possible, c'est facile, on y va.
Alors Karine Lajon évoquait les réseaux sociaux à l'instant. Frédéric Saïs, vous explorez les méandres du multimédia chaque semaine dans Le Secret des Sources avec Eric Chavroux. C'est vrai que les réseaux sociaux sont aujourd'hui le canal privilégié pour entrer en contact avec ces djihadistes. Tout simplement parce qu'ils y sont omniprésents sur ces réseaux sociaux. On pourrait presque dire qu'ils y font de la propagande décentralisée.
Oui, quasiment. Les exemples sont multiples encore récemment. Le ciel est bleu, le visage souriant, encadré d'une large barbe. L'homme est francophone. Il précise d'ailleurs français d'origine française, interrogé par un autre militant, lui aussi francophone. Il affirme être un ancien militaire, un ancien de l'infanterie parachutiste. Une photo le montre ensuite avec l'uniforme de l'armée française, mais l'image est mauvaise et les contours du visage sont difficiles à distinguer. Cette vidéo se trouve très facilement parmi des milliers d'autres sur YouTube, des milliers d'adolescents ou de jeunes adultes européens qui postent leurs photos, leurs vidéos de la guerre sainte, dans une sorte effectivement de djihad médiatique décentralisé où se confond la foi brandie en étendard et en même temps une forme d'égocentrisme propre aux réseaux sociaux, des sortes de mini-cartes postales de combattants en herbe, parfois l'arme à la main, mini-message de propagande, ou plutôt LOL Jihad, comme l'a écrit hier le journaliste Christophe Ayad dans Le Monde, LOL Jihad en référence au LOL Cat, ces vidéos de chats amusants qu'on s'échange massivement par Internet. C'est aussi parfois une manière de glorifier, d'embellir une réalité qui est peut-être moins héroïque sur le terrain. Sur place, on l'a lu dans de nombreux articles, dans de nombreux reportages, les adolescents français sont souvent relégués aux tâches les plus basses, les porteurs d'eau, les cuisiniers, au mieux, ils sont promus geôliers, on l'a vu récemment. On est donc bien loin des filières afghanes, des jours de marche, des passeurs pour aller se frotter au djihad. La profusion est d'ailleurs telle qu'il est difficile de faire le tri. Les rumeurs les plus folles circulent. Il y a 3 semaines, par exemple, on a vu sur ces réseaux sociaux, et ça a été vraiment beaucoup relayé, que l'ancien footballeur de l'équipe de France, Lassana Diarra, s'était engagé dans les rangs djihadistes. À l'origine de ça, c'est une photo où l'on voit un homme, le visage partiellement caché par un chèche, en Syrie, qui ressemble vaguement, mais alors vraiment très vaguement, à cet ancien international. Et le footballeur lui-même a dû démentir. Non, je ne suis pas en train de faire le djihad en Syrie, renseignement pris. Il joue au football dans un club russe.
Alors, est-ce que cette omniprésence sur les réseaux sociaux, évidemment, elle sert aussi bien aux services de renseignement qu'aux journalistes?
Oui, on pourrait comparer avec il y a quelques années, nos invités le feront sans doute, cette quête journalistique. Il fallait aller peut-être au Waziristan ou dans les filières très compliquées, avoir des intermédiaires, gagner la confiance qu'il faut toujours faire, mais c'est peut-être plus simple. On se souvient des reportages en caméra cachée. Désormais, les djihadistes sont à portée de clic, alors évidemment assez méfiants, mais certains acceptent de parler, on en parlait à l'instant avec Omar Waman et nos invités. Alors on n'est pas ici sans doute dans le noyau dur idéologique, c'est ce que vous disiez Karine Lajon, on est plutôt dans le menu frottin, c'est-à-dire des personnes un peu désorientées qui tweetent, qui se glorifient auprès des Français. Et puis il y a aussi les services de renseignement, pour qui c'est utile de voir ces images et ces parcours. Twitter a été au début assez utilisé par les Chebabs en Somalie, ils avaient diffusé le corps d'un agent de la DGSE qu'ils avaient réussi à tuer, Denis Alex, au cours d'une opération des services secrets ratée. Alors finalement, cette profusion d'informations est utile aux services de renseignement, aux journalistes, d'où le paradoxe. Faut-il tenter de fermer ces pages, de fermer ces comptes qui relaient la propagande, ou bien s'en servir pour mieux surveiller les groupes violents? Question sans réponse évidente face à cette mine d'informations assez ouverte.
Jacques Follereau, Le Monde.
Non, c'est journalistiquement, c'est vrai que être confronté aux réseaux sociaux, à la toile internet et à cette plutôt très bonne maîtrise des groupes djihadistes, de ces nouveaux moyens de communication, c'est extrêmement casse-gueule. c'est encore plus compliqué, j'ai envie de dire, de traiter ce type d'information qu'avant, quand on était confronté à une source humaine.
Par définition, vu qu'il y a un ordinateur entre l'interviewé et l'intervieweur, la question de la fiabilité, elle est quand même posée.
Il y a une revue qu'on n'a pas citée encore, qui est Inspire, qui est une revue
qu'on trouve très facilement sur Internet, etc.
Et c'est vraiment le petit manuel du parfait djihadiste. Ça vous apprend, et en plus, c'est très sophistiqué comme message. C'est très pédagogique.
C'est publié par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, pour être précis.
C'est ça. Et donc, c'est très construit, c'est très bien fait, et on voit bien que dans l'ensemble, en tout cas sur le territoire français, l'ensemble des groupes, tout ce qui est autoradicalisation, ou même des gens qui ont effectué des voyages dans la région en Égypte, ou même en Syrie, ou même sans avoir même voyagé, on retrouve à chaque fois les traces de cette revue. Et après, moi, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que journalistiquement, comment on traite ce genre de source, mais on peut se poser exactement la même question que quand on reçoit de l'information auprès simplement d'une source de renseignement. Donc, il faut essayer de faire son chemin et de trouver des contrepoints à tout.
Il y a quand même plus de doutes, Karine Lagence, sur un propos qui vous est tenu par un interlocuteur via Skype ou via un ordinateur qu'avec un interlocuteur que vous avez sous la main sur le terrain, par définition. Enfin, je veux dire, la fiabilité n'est pas la même, quand même.
Oui, bien sûr, mais moi j'ai envie de vous dire qu'au-delà de tout ça, Al-Qaïda nous pose problème depuis le début, parce qu'au début, le hardcore donc, de Al-Qaïda, vous n'y avez pas accès. Il n'y a que deux journalistes au monde qui ont rencontré Ben Laden. Zawahiri, personne
CNN,
ne l'a vu.
Un journaliste pakistanais.
Et c'était Robert Fisk.
Al-Zawahiri,
personne ne l'a vu, il n'a jamais accordé une interview. Donc, et aujourd'hui, alors c'est l'inverse. On a accès, j'allais dire, sans doute le menu fretin, je pense, des djihadistes. Encore que, Al-Nusra, ils utilisent Twitter. Alors, ils utilisent Twitter, ils se lancent dans des campagnes.
En Syrie, hein.
Mais c'est que d'un côté. On n'arrive pas à les contacter, eux. Mais donc, moi, j'ai envie de vous dire qu'Al-Qaïda nous pose problème encore aujourd'hui, parce qu'on a on n'a pas d'interlocuteurs, soit on a une avalanche d'interlocuteurs avec une difficulté immense à évidemment vérifier tout ce qu'ils nous racontent. Sachant que probablement, il y a 90% de déchets. C'est quand même un gros défi, cette entité ou cette nébuleuse terroriste, hein, pour le travail journalistique.
Donc l'autre grande catégorie de sources, ce sont effectivement, vous en parliez Jacques Follereau tout à l'heure, les magistrats, les enquêteurs, les services, les hommes politiques.
Il y a des Français, il y a des Européens, en nombre. Et par conséquent, il faut être déterminé à lutter contre ce phénomène. Un nombre sans cesse croissant d'Européens qui partent dans des groupes djihadistes en Syrie, avec des exactions commises, des actes de barbarie, de torture, de crimes, tout cela doit cesser.
Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, cette semaine chez nos amis de France Info, à l'occasion de la présentation de ce plan de lutte contre le djihadisme, est-ce qu'on peut considérer comme fiables les informations données par les pouvoirs publics sur ce sujet, Jacques Follereau?
Si on s'en tient qu'aux chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, ou la DGSE, ou la DCRI, je pense qu'on fait que la moitié du chemin. Et on ne peut pas se contenter de livrer ce chiffre-là, comme ça, qui rentre. Évidemment, on entend bien, ça rentre dans une espèce de petite musique sécuritaire qui justifie le renforcement, enfin, un discours purement répressif.
Au demeurant, des chiffres, il y en a des différents, parce que ça oscille entre 300 et 700,
ouais, mais
le nombre de Français en Syrie.
Globalement, en tout cas, sur les sources, on va dire relativement fiables, sécuritaires en France, sur l'année qui vient de s'écouler, c'est relativement cohérent. Ils ont juste une espèce de spécificité qu'il faut essayer souvent de réexpliquer au public, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre en nombre de personnes sur place et un chiffre en flux, c'est-à-dire les gens qui font l'aller et venue, etc. Donc ça, on arrive relativement bien à comprendre l'analyse qui est faite par les sources sécuritaires.
Mais par exemple, ce chiffre, quel que soit le chiffre que l'on prend, il est fiable? Enfin, on peut le considérer comme fiable? Qu'est-ce qu'on en fait, nous, de
Mais,
ce chiffre
je veux dire, ce qu'on en fait, à la limite, on n'a évidemment pas les moyens d'aller vérifier au cas par cas, de toute façon, parce qu'on n'arrivera pas à avoir accès au niveau du renseignement à chaque cas, à chaque fiche, etc. En revanche, il y a une chose qu'on peut faire et qui me semble très utile, c'est de dire, ok, vous nous donnez ce chiffre-là, mais est-ce qu'aujourd'hui les démocraties occidentales, dont la France, sont armées, comprennent pourquoi est-ce que l'Europe est confrontée à ces déplacements massifs du jamais vu dans un djihad sur une terre étrangère? Parce que ça n'a jamais été le cas au Mali, ça n'a jamais été le cas dans la zone afghano-pakistanaise. Et là, se posent des choses sur lesquelles nous, journalistes, on peut répondre. C'est-à-dire que c'est le trou noir de l'antiterrorisme, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe là-bas. Judiciairement, ils n'ont aucun outil, parce que c'est quand même, judiciairement, pénalement, ça obéit à des critères très fixes pour poursuivre quelqu'un. Pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, il faut un attentat contre une cible civile ou une relation, la preuve d'une relation directe avec un groupe inscrit sur des listes du terrorisme international.
C'est ce que soulignait le juge Trévidic en fin de semaine, là, je crois, dans une tribune, c'est que cette notion d'association de malfaiteurs, elle correspond plus trop à la nature du délit.
Et parce d'autant que
souvent,
plus que
c'est des individus très isolés, il n'y a pas nécessairement association de malfaiteurs. En tout cas, on ne peut pas le démontrer.
Et il faut surtout rappeler sur le cas syrien qu'il y a une bonne partie, à commencer par les démocraties occidentales, qui luttent aussi contre le régime de Bachar el-Assad. Et puis que même parmi les groupes qui se battent, qu'on peut qualifier d'extrémistes ou d'islamistes, vous avez des groupes qui sont nationalistes. Ahrar al-Sham, par exemple, condamne les attentats contre la population, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est une tactique judiciaire, mais vous avez certains Français qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice, qui disent, mais attendez, vous me poursuivez de ce fait-là, alors que moi, justement, j'ai toujours condamné ce que faisait l'EIL ou même
l'État islamique en Irak et au Levant.
C'est ça. Donc, et donc, se référant, si vous voulez, à des groupes islamistes et nationalistes.
Est-ce que les services, la DCRI, la DGSE, fournissent aux journalistes qui sont spécialisés sur ce secteur des informations un peu détaillées aussi sur le profil de ces jeunes djihadistes ? Ou pas du tout ?
Après, ça dépend,
ça
dépend du réseau.
Impossible.
Non, si, c'est accessible, on peut avoir accès. Ça dépend du réseau de chacun. Il y a ce que vous pouvez avoir comme information au niveau du renseignement. Ensuite, il y a ce que vous pouvez avoir au niveau de la procédure judiciaire. Et puis, évidemment, comme on l'a dit au début, les informations qu'on peut avoir directement auprès d'individus.
Il y a des chiffres qui sont avancés aussi parce qu'il est convenu d'appeler des experts. Par exemple, on a eu ces derniers jours une étude du Centre sur la radicalisation du King's College à Londres, évoquant des chiffres assez précis sur le nombre de djihadistes étrangers en Syrie et évoquant aussi le profil de ces gens-là. Est-ce que là encore, ce sont des études fiables? Sur quoi elles reposent? Est-ce que le journaliste peut s'en servir ou pas, à votre sens?
Ça tourne un peu en rond, c'est-à-dire que les sources de ce genre de centre de universitaire, c'est souvent aussi les mêmes sources que, par exemple, Gilles de Carcassonne, qui est le monsieur antiterrorisme
au niveau européen.
On tourne toujours un peu autour des sources de renseignement européens, donc auxquelles après il y a un suivi au cas par cas grâce à la transmission d'informations relativement confidentielles, peut-être à ces centres universitaires. Mais sur les chiffres français, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est que sur les 250 personnes globalement qui sont a priori sur place, voilà, on sait qu'il y a X pourcent de personnes qui sont issues d'une filière tchétchène qui passe par Nice et qui va sur place. Et ensuite, l'autre moitié, vous avez une partie de gens qui sont déconvertis et une autre partie d'origine d'Afrique du Nord, globalement. Après, on rentre dans le détail, mais si vous voulez, c'est un travail qui peut être... qui est intéressant sur le profilage, mais après il faut aller plus loin.
Sur les chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a la connaissance de la présence de Français en Syrie depuis longtemps. Mais les familles se sont exprimées publiquement que récemment. Et ça, c'est une source. C'est-à-dire qu'en Belgique, on a réussi à chiffrer le nombre de Belges combattants en Syrie, parce que les familles sont...
Chiffre qui est élevé, hein, il y a beaucoup de
chiffres
Belges.
Chiffre élevé. Proportionnellement au pays, une ville comme Vilvoorde a vu une partie de sa jeunesse décimée. Et ces familles-là sont allées déclarer la disparition de leur enfant, avec une forte suspicion d'un voyage vers la Syrie pour combattre contre le régime de Bachar el-Assad. Et ça a permis, comme ça, d'avoir des chiffres assez fiables. Contrairement à la France, où finalement on découvre sur le tard, parce que les familles s'expriment et qu'il y a ce fameux plan, mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des Français qui vont combattre là-bas. Sauf qu'effectivement, il y a eu, au niveau des familles de ces jeunes, des mamans et des papas, elles ont eu du mal à s'exprimer au début. Je pense qu'elles avaient beaucoup peur pour leur réputation. Puis il faut aussi comprendre qu'un enfant, un jeune qui va combattre aujourd'hui en Syrie, à son retour, risque d'aller en prison. Donc c'est aussi l'un des problèmes.
Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une tentation du politique, soit de sous-estimer le nombre pour ne pas se voir reprocher de ne pas s'attaquer au phénomène, ou à l'inverse de le surestimer, de le survaloriser pour justifier toute une opération de communication, voire, on l'a vu aux États-Unis après le 11 septembre, pour justifier une série de mesures attentatoires aux libertés. Faut-il pas se poser cette question quand on est journaliste, de la tentation du politique de jouer avec ça d'une certaine façon, même si c'est cynique, mais c'est la réalité du politique souvent.
Vous avez débuté l'émission avec Cazeneuve, donc le ministre de l'Intérieur, aux 20h sur la 2, présentant son plan, etc. Mais c'est typiquement quand même, ça s'intègre vraiment dans une opération de communication, c'est-à-dire que les éléments qui ont été évoqués au Conseil des ministres sont issus d'un Conseil restreint de défense du 24 mars dernier, au cours duquel ils ont essayé d'apporter une réponse. Mais je pense que si on rentre dans le détail et qu'on voit ça un peu en perspective, ça illustre, moi je trouve, c'est très informatif sur l'impuissance des autorités publiques. Parce que qu'est-ce qu'il y a réellement dans ce... C'est très impressionniste. Vous avez une dimension de renseignement, de surveillance, et puis une dimension préventive, sur la prévention. Mais c'est parce qu'il ne, je veux dire, il y a une chose qui est sûre quand même, c'est l'aspect massif. Et comment la France, pour l'instant, en fait, on est sur l'anticipation. C'est-à-dire qu'à la limite que des gens aillent se battre, se faire sauter en Syrie ou ailleurs que sur le territoire français. Les autorités, franchement, c'est pas leur premier souci. Tout ce discours qui est un peu anxiogène, parce que tout le monde a évidemment Mohamed Merah en tête, etc., il est fait dans l'anticipation d'un retour de ces djihadistes aguerris sur le sol français, et où ils pourraient éventuellement commettre un certain nombre d'attentats. Et c'est ça la vraie crainte des services de sécurité. Mais aujourd'hui, pour juguler, ou même le comprendre, la réponse officielle, elle est plutôt vide. Si c'est le mot est un peu fort, mais honnêtement, on est vraiment sur une vaine tentative de juguler un phénomène complexe.
Et un exercice par définition de communication politique quand même. Filière djihadiste, comment informer sans se faire manipuler? Ce matin, dans le secret des sources sur France Culture, avec Karen Lajon du JDD, Jacques Follereau du Monde et Omar Waman de France Culture. Comme chaque semaine, vous n'hésitez pas, vous téléchargez, vous commentez, vous critiquez, vous complétez sur franceculture.fr. Dans un instant, on essaie de dépasser la question des sources, d'élargir le débat sur le traitement journalistique de cette question avec le sociologue Jean-Marie Charon. Le boss américain Bruce Springsteen regardant le ciel vide d'avions juste après les attentats du 11 septembre à New York. Empty Sky. I woke up this morning. I could barely breathe. Just an empty impression. In the bed where you used to be, I want a kiss from your lips, I want an eye for an eye. I woke up this morning to an empty sky, empty. Jean-Marie Charon, vous êtes, je le rappelle, sociologue des médias. On va essayer avec vous de ne pas être trop politiquement correct. Je m'explique. Le traitement des médias sur la question djihadiste est très empreint par nature d'émotion sur le thème « il faut lutter contre les méchants ». Alors, il ne s'agit évidemment pas ici de légitimer le terrorisme, mais ce traitement monocolore de la question djihadiste pose quand même question. Par exemple, les médias pourraient faire preuve de rappel historique.
El pueblo francés no olvide que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia.
Le Parti communiste français se dresse contre cette politique dite de non-intervention qui fait bon marché de la sécurité de la France. Il organise l'action, l'aide effective au peuple espagnol dans sa lutte pour l'indépendance.
Archive d'un documentaire qui s'appelle « Le lendemain qui chante sur la guerre d'Espagne en 1936 ». C'est un comparatif qui n'est pas totalement absurde quand même avec l'exode djihadiste vers la Syrie. Mais les médias ne le font pas, ce comparatif, Jean-Marie Charon.
Oui, effectivement, ce qui est frappant, c'est qu'on a une impression d'inédit dans ce qui est traité de cette affaire des départs de volontaires vers la Syrie, alors qu'on sort d'un siècle, le XXe siècle, où ce phénomène de départ de volontaires français, mais pas que français, vers des conflits, vers des guerres civiles, vers des lieux de révolution, a été assez répandu. Alors bien sûr, on a la guerre d'Espagne, où là, le parallèle, Jean-Pierre Filiu d'ailleurs fait ce parallèle hein, entre la Syrie et l'Espagne, et assez justement parce qu'on retrouve des phénomènes comparables. Il y a eu, je dirais, une condamnation des gouvernements démocratiques et en même temps quelque chose qui ressemble à une trahison dans la mesure où on n'a rien fait, où on n'est pas intervenu, où on ne soutient même pas les opposants. Et par ailleurs, il y a les phénomènes d'atrocité. Et alors, la guerre d'Espagne, c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce phénomène du nombre. Les Français sont partis massivement en Espagne et ont rejoint d'ailleurs différentes organisations. Le POUM, hein, dont s'est parti George Orwell, par exemple. L'AIT, qui était les anarcho-syndicalistes. Malraux, qui monte une escadrille Espagna, hein, une escadrille d'avions. Une des rares escadrilles dont disposaient les républicains. Et puis, bien sûr, il y a les brigades internationales. 9000 Français dans la brigade internationale. De très nombreux morts. Donc, on a l'impression que cette réalité a été complètement occultée. De la même manière que le retour des brigadistes a été extrêmement pénible. Bien sûr, disons, pourchassés, ennuyés. Et puis, évidemment, pendant la période de Vichy, carrément, parfois envoyés en déportation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi les années 60-70. Ça, je crois qu'on a complètement occulté. Il y a eu, par exemple, le départ de volontaires. Beaucoup moins nombreux, certes, mais par exemple vers l'Amérique latine. Hein,
Régis Debray, révolutionnaire en Amérique latine.
Emprisonné après avoir rejoint la guérilla bolivienne. Mais plus tard, dans les années 70, on a eu aussi des jeunes désorientés parce que justement l'extrême gauche française ne passait pas à l'acte. Ne prenaient pas les armes. Certains sont partis, ont rejoint les Fedayines. D'autres ont rejoint les groupes radicaux italiens, l'Ota Continua ou les Brigades Rouges. Autrement dit, ce phénomène consistant à voir une partie de la jeunesse très radicalisée partir pour combattre ailleurs, c'est quelque chose qui a déjà existé. Alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est si on essaye de faire un partage entre la situation actuelle et la situation de l'époque, c'est que tout ça s'est fait au nom de ce qu'on appelait l'internationalisme. Hein. Et on avait tout un courant politique, la gauche de la gauche, en gros, qui adhérait complètement à cette idée.
Donc avec une partie des médias qui considéraient ce mouvement comme légitime. Enfin, oui. je résume, mais
d'autant plus que les
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui
oui,
du tout.
D'autant plus que les partis politiques, là on a entendu le Parti communiste, mais il y a eu aussi les groupes trotskistes, il y a eu aussi les maoïstes, étaient des groupes reconnus, avaient leurs propres médias, et on avait donc une partie des journalistes qui, à la fois, avaient des témoignages directs, voire accompagnaient ces combattants. On a même eu des choses beaucoup plus délicates, qu'apparemment, là encore, on oublie, c'est qu'il y a même des Français qui, au nom de l'internationalisme, ont combattu l'armée française du côté du Viet Minh, ou ont combattu l'armée française du côté du soutien au FLN. Le réseau Janson, par exemple. Donc tout ça... Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il y avait une adhésion consensuelle à la question de l'internationalisme. Mais c'était un sujet de débat. Ça faisait partie du
débat.
C'était
pas un exode totalement illégitime aux yeux de la presse, ou du moins d'une partie des médias.
En tout cas, ça méritait de faire partie du débat public. Or, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il y a a priori diabolisation, a priori une forme de refoulé, hein, et une exclusion du débat public en disant ces gens ne sont pas légitimes, on n'a même pas besoin d'intégrer leur thèse, leur motivation. Et par ailleurs, moi je suis aussi frappé, j'ai lu beaucoup de choses évidemment avant de venir avec cette émission, c'est de voir aussi que les discours, les langages, les thèmes qui sont utilisés pour décrypter le phénomène me paraissent très peu politiques, ils renvoient beaucoup plus, je dirais, à l'univers de la secte. Et là, je ne suis pas sûr que pour traiter d'un problème politique, que pour traiter d'un syndrome, hein, le fait de procéder comme ça. On n'a jamais traité une névrose par le refoulement. Hein.
Alors, Karen Lajean, Jacques Follereau, Marc Waman, c'est intéressant ce que dit Jean-Marie Charron quand même. Le fait qu'aujourd'hui, on soit en présence de quelque chose qui est complètement illégitime aux yeux de la presse, comme si c'était totalement exogène à l'univers de la presse.
Oui, il y a un climat en Europe, en France, dans les pays occidentaux, qui consiste à diaboliser effectivement Bachar el-Assad, à le désigner comme l'ennemi ultime.
Et les djihadistes avec lui, en fait.
Exactement. Mais quand je suis allé sur la frontière syrienne très récemment, il y a quelques semaines, j'ai rencontré des combattants syriens, rebelles, qui ont eu affaire à ces jeunes. Et ils m'ont dit, vous savez, récupérez-les, on n'en veut pas. Ils nous font beaucoup de mal, beaucoup plus que Bachar el-Assad. Je ne dis pas que ces jeunes sont la majorité de ceux qui sont allés combattre en Syrie, mais il y a une frange extrêmement radicale. D'ailleurs, les Belges peuvent s'en parler. Ils ont découvert sur leurs réseaux sociaux des jeunes décapitant un soldat de l'armée nationale syrienne. Et tout cela en version originale, en flamand. À Anvers, cette vidéo a choqué l'ensemble de la population.
Mais encore une fois, Jean-Marie Charron nous dit qu'il y a un refoulé du sujet. C'est-à-dire la presse ne se coltine pas avec la compréhension vraiment de la motivation de ces jeunes et la compréhension de ce phénomène. Enfin, c'est un peu ce que vous nous disiez. Hein. Je sais pas, moi, j'aimerais connaître votre sentiment là-dessus quand même, Karine Lajon, Jacques Follereau.
Parce qu'on touche au religieux, je pense. Là, ce qui s'est passé dans les mouvements précédents, c'était du politique pur. Là, on est dans une espèce de... Il y a du politique du côté de Bachar, si je puis dire. Mais ça, on sait tous que, bon, les gouvernements occidentaux ont laissé tomber l'opposition qui aurait pu être laïque ou en tout cas se rapprocher de nos idées à nous, les Occidentaux. Donc, on tape comme des fous sur le gouvernement de Bachar. Bon, ça, c'est pas difficile. Hein. Tout le monde est d'accord. Il y a un consensus là-dessus. Et de l'autre côté, vous avez donc des djihadistes qui se revendiquent. Eux, leur discours, il n'est pas politique. Enfin, il est surtout idéologiquement religieux. Donc, c'est très compliqué. On touche donc à ce sujet qui est compliqué, qui est l'islam politique. Ils le font d'une manière extrêmement violente, extrêmement barbare. On n'a qu'à voir les vidéos qui passent sur YouTube où on voit des décapitations, des crucifications. J'ai encore vu il y a deux jours un type qui était crucifié sur la place publique, je ne sais où, avec des enfants et des adultes qui prenaient des photos avec leur téléphone. Donc moi je pense que c'est la difficulté aujourd'hui des journalistes qui font peut-être pas bien leur travail, hein, après tout pourquoi pas, mais aussi du côté du monde arabo-musulman où c'est très compliqué cette histoire de religion, c'est-à-dire oser s'élever contre ces djihadistes et oser s'élever contre la religion, contre l'islam. Et je pense que pour eux, c'est une espèce de situation inextricable où ils n'ont pas la réponse, et nous encore moins, visiblement.
Est-ce que la presse, encore une fois, n'est pas animée d'un espèce de préjugé moral? C'est ça aussi un petit peu la question latente. Et qui traduirait une sorte de, je vais plus loin dans le raisonnement, mais d'un fossé entre la population journalistique d'un côté et de l'autre côté, une frange de la société qui, elle, est empreinte de religion et de critique anti-occidentale.
L'aspect religieux et l'aspect civilisation, c'est vrai qu'il n'est pas...
Jacques Follereau.
Il n'est pas absent de ce qui peut structurer les réactions, y compris des journalistes, en tout cas de l'opinion occidentale. Mais moi, ce qui me frappe en effet aujourd'hui, c'est de voir qu'on traite globalement, et pas que médiatiquement, mais politiquement surtout, la question de l'engagement en Syrie que par le prisme aujourd'hui. De la crainte de soit on envoie nos jeunes, les enfants, surtout les mineurs, il y a eu des mineurs, donc ça, il y a eu un choc dans l'opinion. Donc on envoie, les jeunes français vont se battre et se faire exploser comme des kamikazes sur un sol étranger, ou alors attention, on est en train de fabriquer, c'est une fabrique de terroristes qui vont venir sur le territoire. Globalement, ça a complètement envahi la question de l'engagement français en Syrie. Alors que, si vous voulez, c'est clair qu'il y a une forme de simplification, ça sert aussi, comment dire, un positionnement des autorités françaises sur la complexité du positionnement politique. Pas oublier quand même que la France, elle a failli aller taper en Syrie. Et je vous rappelle juste, pour justement mettre un peu en perspective, si on voit ce qui s'est passé en Afghanistan, l'opinion a très longtemps, si ce n'est encore aujourd'hui, assimilé les talibans, par exemple, à Al-Qaïda. Et évidemment que ça pouvait justifier l'engagement militaire là-bas, etc. Alors que les talibans n'ont jamais, mais jamais, eu pour vocation, ni pour but, ni eu envie d'aller se battre ailleurs que sur leur propre sol. C'est un mouvement nationaliste, islamiste, et qui se considère comme un mouvement de résistance.
Et est-ce que le fait qu'une partie de ces djihadistes ait pris pour habitude et pour business quasiment de prendre des journalistes en otage, est-ce que ça ne conduit pas la presse, par réaction de solidarité et d'émotion, à justement regarder systématiquement ce sujet avec un jugement moral? Les djihadistes sont des méchants, la preuve, ils nous kidnappent. Vous voyez ce que je veux dire, Karine Lajon?
Oui, enfin franchement, ils sont pas très gentils.
Je porte trait, je dis pas ça, mais c'est juste.
Déjà, bon, cette histoire de kidnapping, c'est quand même à la base de la criminalité. C'est pour recruter des gens, acheter des armes, même s'il y a des États qui vraisemblablement fournissent. Hein. Mais donc, on est quand même dans la criminalité aussi, avec beaucoup de mouvements djihadistes. Hein. Sur un socle pseudo-idéologico-religieux, je sais pas trop quoi, mais ils sont pas animés d'intentions idéalement politiques, je dirais. Moi, je les vois pas, en tout cas.
Alors, je voudrais qu'on écoute aussi ce que disait il y a quelques années le spécialiste en géopolitique Gérard Chalian au sujet du terrorisme. C'était dans le cadre de l'Université de tous les savoirs.
Le terrorisme aujourd'hui occupe finalement l'espace de la violence. C'est une forme de guerre. Il n'est pas plus illégitime, je veux dire, illégitime pas au sens de la légalité, mais il n'est pas plus illégitime que la guérilla. Et je pense qu'il n'y a pas de jugement moral à porter dessus de façon unique. Ou alors, il faut porter un jugement moral aussi sur la guerre et ses conséquences.
Gérard Chalian appelant il y a quelques années à ne pas appréhender le terrorisme avec un regard moral, si tant est qu'on souhaite le combattre et le comprendre. Est-ce que, encore une fois, les médias ne tombent pas dans ce panneau du regard moral?
Ouais.
Jacques Follereau.
J'ai envie de dire que j'entends parfaitement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que et on peut étendre ça à ce qui s'est fait dans les principales démocraties occidentales depuis le 11 septembre. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut rentrer quand même dans un droit d'inventaire sur ce que les démocraties occidentales se sont autorisées à faire au nom de la lutte antiterroriste. Et là aussi, il peut y avoir un questionnement moral. Les vols secrets de la CIA, l'usage de la torture, la vente, y compris par la France, de matériel permettant à des dictatures d'intercepter et de torturer des gens, évidemment Guantanamo, etc. Il faut sortir des images simplistes et qui s'intègrent évidemment dans des lectures qui sont idéologiques.
Je suis d'accord. Simplement, je crois qu'il y a un cadre idéologique. Hein. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui adhèrent aux thèses de ce groupe, l'État islamique en Irak et au Levant, sont les mêmes qui adhèrent aujourd'hui à l'idéologie d'Ansar al-Sharia en Libye, les mêmes qui adhèrent à Acmi au Maghreb et au Mujahoud dont on vient de parler. L'idéologie consiste à la création d'un État islamique avec pour loi la loi coranique la plus stricte, avec les imputations, les lapidations, etc. Donc ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et dans les témoignages que j'ai recueillis, j'ai vraiment eu le sentiment que ces jeunes y croyaient.
Oui, Jacques Follereau, encore un mot, non?
Oui, non, c'est juste
pour qu'on aborde un dernier volet.
C'est exactement sur le même point, c'est-à-dire qu'en même temps, ça correspond vraisemblablement à la réalité, mais en même temps, quand on creuse chaque cas, quand ils rentrent sur le territoire français, on est aussi frappé par le peu de réflexion. On est vraiment face à des gens qui sont très très peu structurés intellectuellement. Et c'est le degré zéro de l'engagement. Donc faut pas oublier que, alors peut-être que c'est lié à justement aux réseaux sociaux, à la rapidité, à l'engagement, etc. Mais il y a quasiment aucune réflexion, et souvent, en tout cas pour la partie sahélienne et aussi un peu pour la partie syrienne, c'est vraiment au petit bonheur la chance, hein.
Comment informer sur le djihadisme sans se faire manipuler ce matin dans le secret des sources?
Lorsque je suis rentré ici en Syrie, j'ai compris en fait le mot qu'est-ce qu'être un musulman. La fierté d'être un musulman, la fierté de vivre son islam dans son intégralité, sans bâton dans les roues, sans système oppressif, sans loi qui nous dicte comment nous habiller, comment manger, etc. On ne parle que d'islam, on ne parle que des musulmans. À un moment ou à un autre, de toute façon, c'est clair. Il y a une parole qui est claire et que vous devez savoir. C'est que l'islam, si on le laisse, il se propage, et si on tape dessus, il se durcit.
Un autre de ces témoignages de djihadistes en Syrie, celui-ci se fait nommer Abou Shahid, recueilli par vos soins à Marwaman et diffusé sur France Culture il y a quelques semaines. Il y a un tout autre problème posé par ces enquêtes sur le djihadisme, c'est celui du droit. C'est-à-dire, que peut-on diffuser de la parole de ces extrémistes? Parce que leur donner la parole, c'est évidemment aussi favoriser la propagation de leurs idées, qui souvent, on l'a dit, relève de l'appel au meurtre. Comment est-ce que vous procédez les uns les autres? C'est-à-dire, face à cette parole-là, est-ce que vous considérer qu'il faut l'expurger parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas diffuser en termes de droit? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous dites qu'il faut tout diffuser parce qu'il faut faire prendre conscience de l'ampleur de la menace? Comment vous faites? Et comment on fait?
Moi, j'ai eu un souci. Hein. J'ai vraiment eu un souci, pour le coup, après 7 à 8 heures d'enregistrement avec ces différents jeunes qui, clairement, appelaient au terrorisme, faisaient l'apologie d'actes criminels, d'atrocités, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On édulcore, on ne diffuse pas, sachant que je me suis senti, moi, manipulé lorsque j'ai vu, puisqu'il y en avait deux, qui parlaient via ce compte Skype, ils étaient tous les deux, il y avait cette espèce de surenchère. Et donc j'ai senti quand même qu'ils allaient très très loin. Mais le fond de leurs propos était, si demain ils devaient revenir en France, eh bien ils étaient aujourd'hui formés pour mener des actes dits terroristes.
Karen Lajon, votre sentiment, est-ce qu'il faut tout diffuser de ce qu'on collecte, de ce que le journaliste recueille? Est-ce qu'il faut tout diffuser pour faire prendre conscience de l'ampleur de la menace, ou est-ce qu'il faut expurger d'une certaine façon?
Je pense que c'est trop tard, parce qu'il suffit de regarder YouTube pour voir le déferlement d'images de tueries qui passent sur YouTube ou les messages qui passent sur Facebook ou Twitter, les appels au meurtre, les appels à je ne sais quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est trop tard. Donc nous, les journalistes, on peut toujours essayer d'endiguer cette catastrophe médiatique, parce que c'est quand même ça passe par un canal médiatique, mais les dégâts sont faits. Hein.
Sauf que les médias opèrent une légitimation de la parole quand même. Hein. Ils ont un autre rôle aussi quand même. Hein.
Mais certes, mais est-ce qu'on est lu par ces gens-là? Je ne crois pas. Hein. Est-ce qu'on est écouté par ces gens-là? Je ne crois pas non plus. Hein.
Jacques Follereau et Omar Oman.
Non, j'ai juste l'impression que, en dépit de l'existence de ce flot continu d'informations, mais sans aucune forme de repère, je pense qu'en tout cas au Monde, il y a des règles qui sont claires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diffusion de messages d'apologie du crime, etc., etc. Et ça n'existe pas simplement sur le problème du terrorisme. Ça existait, enfin, terrorisme. Ça l'était aussi, par exemple, lorsqu'on a fait des entretiens avec des groupes clandestins corses. Je veux dire, on a publié, moi je l'avais fait d'ailleurs, des longs entretiens avec eux, dès lors qu'ils appelaient au dépôt des armes, dans une logique de compromis politique, de paix. Et les fois où on a pu être sollicité pour, justement, dans le cadre d'une stigmatisation, d'une déclaration de guerre, etc., c'est pas notre rôle. En revanche, et je finis juste là-dessus, c'est-à-dire que quand on a, par exemple, un jeune français djihadiste arrêté à son retour en France, dans ces cas-là, puisqu'il y a des accusations qui pèsent sur lui, qui lui sont reprochées et qui lui valent la détention, dans ces cas-là, on est justement, me semble-t-il, soumis au respect du contradictoire de lui donner la parole, en tout cas celle qu'il fournit via la procédure judiciaire. Et donc là, on lui donne la parole, et sur, il justifie ou pas, il explique ou pas, effectivement, ce qu'il a fait ou pas fait.
Parce que, encore une fois, vous le disiez, Karine Lajon, tout à l'heure, on est face à des professionnels de la com, quand même. Enfin, c'est la marque de fabrique d'Al-Qaïda. Enfin, c'est probablement leur moyen de survie.
Hakimi est aussi redoutable en termes de communication.
Pour illustrer ce propos, lorsque j'ai interviewé ces jeunes via Skype, encore une fois, nous avons diffusé ces éléments. Je leur ai dit, voilà, ça va passer tel jour. Et j'ai reçu un message après. Nous avons écouté, nous étions plusieurs, francophones, c'était très bien. Et là, je me suis dit, mais bon, voilà, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut faire passer cette parole qui était extrêmement violente. J'ai reçu de nombreux messages de personnes me disant, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils existent? Est-ce que, finalement, ce ne sont pas des imposteurs? Ces jeunes existent. Ils sont en Syrie aujourd'hui. Et effectivement, leur intérêt dans cette prise de parole, c'est aussi de nous manipuler.
Et ça, c'est la stratégie d'Al-Qaïda depuis le début, hein, Karine Lajon. Enfin, voilà, ils sont très, très organisés là-dessus.
Avec, mais ils n'ont pas besoin de nous.
Chaque franchise a sa filiale en com. Ils connaissent tous les codes des médias. Ils les maîtrisent parfaitement.
Oui, ils n'ont pas besoin de nous. Enfin, moi, je pense ça depuis le début. Hein. Après, là, il y a une espèce de focus là, sur les réseaux sociaux, parce que Jabhat al-Nusra, ils ont beaucoup utilisé ça par rapport à la vieille garde de al-Zawahiri, qui en est encore aux cassettes, hein, ça c'est clair. Mais donc, on a une impression de déferlement, comme le chiffre des 700 combattants français, on a l'impression que ça déferle, mais en fait c'est juste une accélération de leur façon de communiquer, d'occuper le terrain, et voire même une espèce, moi je pense qu'il y a une espèce de guerre à l'intérieur même d'Al-Qaïda entre les deux, qui va prendre le pouvoir, marginaliser Al-Zawahiri et tout ça, et ça passe par la jeune garde et donc par les réseaux sociaux, par les médias, mais c'est toujours eux qui contrôlent la communication. Nous, on ne fait que ramer derrière, et comme le dit Jacques Follereau, évidemment on incarne les médias classiques, bien sûr qu'on a des garde-fous, mais ils en ont pas, puis ils s'en fichent.
Jean-Marie Charon, parce qu'on arrive au terme de l'émission.
C'est nouveau. Les médias ne sont pas les mêmes, mais l'investissement de la communication et de la propagande, c'est quand même un phénomène qui date du XXe siècle. Mmh. Et tous les groupes extrémistes ont eu cette propension à investir la communication.
Jacques Follereau,
ce débat, il repose une nouvelle fois, mais c'est une question qu'il faut se poser tout le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une parole, qu'est-ce qu'une information? Et c'est vrai que confronté à cette révolution industrielle des moyens de communication, il faut plus que jamais, et les médias classiques, c'est pour ça qu'ils ont un avenir, justement traiter, décrypter, corroborer et nuancer tout ça.
Merci à tous. C'est la fin du Secret des Sources pour cette semaine. Exceptionnellement, pas de clin d'œil final de Yacine Bouzard, qui s'est accordé quelques jours de repos. Comment informer sur les filières djihadistes sans se faire manipuler? Comme toujours, vous commentez, vous critiquez, vous complétez, vous réécoutez, vous téléchargez sur franceculture.fr. Karine Lajon, Jacques Follereau, Omar Ouaman, Jean-Marie Charon et Frédéric Saïs étaient ce matin dans le Secret des Sources. Merci à tous. Dans quelques minutes, après le journal de Sarah Petitbon, réplique sur France Culture. Ce matin, l'histoire de France a-t-elle encore un sens? Alain Finkielkraut reçoit Patrick Bouchon et Pierre Nora. Prenez soin de vous.
Ce qui leur tenait vraiment à cœur, c'est de parler de l'islam. En fait, leur idée de l'islam, cet islam qu'ils défendent est un islam extrêmement radical. Pour eux, il n'y a pas d'autre solution que de créer un État islamique.
On sait qu'il y a X% de personnes qui sont issues d'une filière tchétchène qui passe par Nice. Et ensuite, l'autre moitié, vous avez une partie de gens qui sont des convertis et une autre partie d'origine d'Afrique du Nord, globalement.
On est quand même dans la criminalité aussi, avec beaucoup de mouvements djihadistes, hein, sur un socle pseudo-idéologico-religieux, je ne sais pas trop quoi, mais ils ne sont pas animés d'intentions idéalement politiques, je dirais. Moi, je ne les vois pas, en tout cas.